nous sommes que des lutins sans pouvoir.
Allez, salut Hugo.
Salut Gueno.
Bienvenue donc à Arrête ton cinéma, 4ème édition. Aujourd'hui, nous parlerons des super-héros au cinéma,
DC Comics.
Voilà. Là, on va être un petit peu, comment dire, en duo plutôt qu'en trio, puisque notre superbe animatrice est allée faire des visites sur des planètes parallèles. Donc, dans un premier temps, on va parler un petit peu de comment ça s'appelle, des Marvel.
Tout à fait, monsieur.
Tout à fait. Alors, qu'est-ce que les Marvel, mon cher Hugo ?
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas ? Eh ben, ça ne va pas nous aider. Non, en fait, bon, voilà, c'est des personnages comme Batman, comme Superman.
Blade.
Daredevil.
Deadpool. Iron Man, Iron Fist. 4 Fantastiques, X-Men, enfin bon, l'Avengers,
voilà.
Luke Cage, enfin oh là là.
Voilà, y en a... et ce qu'il faut savoir, bon après là c'est plus dans les comics qu'au niveau du cinéma, mais les personnages comme Batman, comme Superman, comme Captain America sont vraiment les premiers comics, puisque si je m'en rappelle bien, le premier est apparu en 1938, que Superman est apparu en 1939 il me semble, et que Captain America lui est apparu en 1940 pour aider justement les alliés contre... l'axe du mal qui était les nazis. Donc ces personnages, on a donc le premier et je pense entre guillemets l'un des plus connus qui est Superman.
Oui, c'est le premier. Oui.
Voilà, c'est ça, Superman. C'est un personnage assez curieux parce que déjà primo, il est pas terrien.
Ouais. C'est un surhomme. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est un surhomme. Grâce à quoi ? Grâce à quoi ?
À la kryptonite.
Mais... non, grâce au soleil, eh oui. Bah si, c'est justement le soleil qui lui donne son pouvoir.
Ah,
et
oui,
par contre,
oui.
C'est la kryptonite qui... c'est grâce à ça que d'ailleurs son fameux adversaire, Lex Luthor, arrive à le dominer. Oh là là. D'accord, super.
Non, mais j'aime pas Superman.
T'aimes pas Superman? Et pourquoi t'aimes pas Superman?
Ça a mal vécu maintenant, je trouve.
Bah moi, je dirais, oui. Bah, déjà, ce qui est le plus moche chez Superman, c'est quand même... son costume. Je veux dire, moi, le côté mettre une petite culotte sur son vêtement, à part Beyoncé ou Britney, ça le fait pas trop, quoi. Dezio, qui est assez critiquable chez Superman, c'est Lois Lane.
Oui, oui. Une grande journaliste qui voit même pas que c'est Clark Kent qui est Superman.
Voilà, tout à fait. Alors qu'il a juste des lunettes et de la gomina. Et là, paf, elle le reconnaît pas. Moi, je dis, il y a quand même quelque chose, quand même. Puis, alors, donc, ça a été le premier à sortir les films. Puisque le premier Superman est de 1978.
Tout à fait.
En 1980 et 83 et en 1987. Et donc, ça, c'est la grande période Christopher Reeve, qui a hélas mal terminé sa carrière d'acteur, puisqu'il a fini tétraplégique suite à un accident de cheval. Et donc, en fait, ce qui est très curieux avec Superman, c'est que c'est un héros, comment dire ?
Non, un héros.
Un héros, pardon. Mon cher Hugo. Mon cher Hugo. Donc, en fait, c'est un personnage, super positif. On ne connaît pas le côté sombre de Superman. Enfin, je veux dire, au niveau du cinéma. Ça a été fait pour le dernier, il me semble, qui a été fait et qu'on a fait une tentative de un peu...
Oui, mais il s'est remis en cause, quand même. Il me semble que dans le 2, il lâche tous ses pouvoirs pour l'amour de
ouais.
Lois Lane.
Oui, non, mais tout à fait. Mais je veux dire, quand tu vois des personnages comme
Ah oui, on ne voit pas son côté obscur.
Voilà, c'est ça. Parce que, par contre, le personnage qui est Batman, qui a par contre un côté
sombre.
Plus sombre, tout à fait. Parce qu'il y a cette poursuite qu'a Spider-Man, pardon, aussi. C'est-à-dire que lui a été victime de la perte de ses parents. Voilà.
Oui.
Donc, et il y a une espèce de vengeance. Il y a des gens qui ont dit que Batman... était un schizophrène à tendance obsessionnelle.
Pourquoi pas un petit tour de magie ? Vous voyez ce crayon ? Je vais le faire disparaître. Tada ! Ça y est, disparu le crayon.
Voilà, c'est-à-dire que il s'est créé un personnage secondaire, qui est donc ce fameux être masqué. Parce que lui, par contre, comme à la différence de Superman, est masqué, n'a pas de super pouvoir, s'est créé grâce à Bruce Wayne un empire financier qui va pouvoir l'aider à justement à mettre en place toute son, comment ça s'appelle, son réseau pour vaincre les méchants. Alors,
Oui, mais c'est des histoires policières à l'époque, à la base.
oui.
Puisque DC Comics, ça veut dire détective comique. C'est la
Et
grosse différence avec Marvel.
voilà, c'est ça. Et puis il y a ce côté Spider-Man aussi. Spider-Man, lui, a été aussi victime de l'assassinat de bah, je me sens que déjà ses parents et ensuite son fameux oncle qui le gardait. Et il y a la fameuse histoire qu'on voit dans le premier
Oui.
où il a failli arrêter un voleur qui l'a laissé passer et que c'est ce type-là qui a tué son oncle, quoi. Et qui a cette fameuse phrase de dire que tout pouvoir implique une grande responsabilité. Alors lui, il a un côté un peu plus sombre qu'on verra dans le plus tard dans le personnage de Venom.
C'est les plus connus, hein. C'est là où ils ont fait le plus de suites.
Voilà, tout à fait. Ouais, que ce soit Superman, que ce soit Batman, d'abord avec Tim Burton, donc le premier avec le fameux Joker
Oui, oui.
qu'on verra sous les traits de Jack Nicholson. Ensuite, il y a le 3, le 4. Et puis après, il y a toute la grande période de Christopher Nolan, dont le dernier va sortir bientôt. Dans le cycle de Christopher Nolan, il a le Beginning.
Oui.
Voilà. Ensuite, il y a le fameux
Dark
période,
Knight.
hein, le Dark Knight, voilà, avec, comment ça s'appelle, le Joker, et qui est vraiment terrible. Et moi, ce que je.
Double face aussi.
Voilà, tout à fait. Double face aussi, oui, qu'on voyait sous les traits, premièrement, de Tommy Lee Jones, et maintenant qu'on voit de Christian Eckhart. Voilà. Et en fait, le Dark Knight, au niveau du box-office, c'est celui qui remporte tous les titres. C'est celui qui a le plus marché après devant Spider-Man 3, Spider-Man, Spider-Man 2. Et c'est vraiment celui qui marche parce que moi je trouve qu'il est extraordinaire ce film. Parce que le personnage du méchant, du Joker, et enfin, il efface totalement, comment ça s'appelle, Batman. Un avis, le Mime Marceau? Merci.
Le mime Marceau.
Non? Qu'est-ce que t'en penses toi?
Ben, je m'en souviens plus très bien.
Tu m'en souviens bien. Eh ben, c'est super. Non, franchement, il est super.
Moi, je me demande si on n'en fait pas trop quand même.
C'est-à-dire?
Ben, au bout d'un moment, on se perd un peu avec toutes ces suites, ces préquels.
Oui, ça, c'est pas faux. Je veux dire, parce qu'on a fait le Superman Beginning, on a fait le Spider-Man Beginning.
D'ailleurs, il va y avoir un Superman en 2013, hein,
Ouais, tout à fait, voilà.
qui est encore un reboot, hein.
Voilà,
On
c'est ça.
revient au début, quoi.
Là, c'est autre chose. On a carrément ce qui est les X-Men. Alors là, c'est plus
C'est un monde différent, là. C'est plusieurs personnages, hein.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un groupe. Mais enfin, bon, je veux dire, intrinsèquement, je veux dire, il y a surtout un personnage qui revient, c'est Wolverine.
Bon, on peut pas dire que ce soit limité qu'à.
Mais oui, mais je veux
Parce que
dire.
quand tu regardes un peu l'histoire du Marvel, c'est super compliqué, hein. Ça a commencé il y a des millions d'années, là, quand on s'intéresse qu'aux comics, hein.
Oui.
Donc après, il y a eu plusieurs Avengers. Enfin bon, il y en a qui meurent, qui reviennent, qui se marient avec d'autres, etc.
Oui, mais voilà, ça.
C'est un monde qui est assez complexe, hein. Il ne faut pas oublier que je crois qu'il y a plus de
Oui.
5 000 héros chez Marvel, hein.
Oui, bah, c'est-à-dire que forcément, à un moment, je veux dire, quand tu crées les personnages, je veux dire, au niveau des films, hein, quand tu crées les personnages au niveau des X-Men, on a pris Wolverine comme chef de file.
Oui.
Alors que techniquement, souvent dans les comics, le héros, c'est soit Cyclope, soit Ororo, le personnage de Tornade. Donc
Oui.
voilà, qui était menée par Alberi et qui a un petit peu boosté son personnage parce que sinon elle était complètement effacée. Alors que dans le comics, je veux dire, c'est à un moment de leur histoire, des X-Men, c'est elle la chef de file, quoi. Quand tout part un peu en sucette.
Votre structure biophysique est en pleine mutation.
Le nuage a complètement réécrit notre ADN.
Red, regarde-moi.
Je peux pas.
Rester en feu toute ta vie, c'est ça que tu veux?
C'est une question piège?
Sans oublier les quatre fantastiques, qui sont aussi, hein, moi je dirais, des personnages un peu aussi positifs, puisqu'ils n'ont pas vraiment de côté obscur. Enfin,
C'est les sauveurs du monde, hein.
voilà. Et puis moi, ce que je trouve aussi, c'est curieusement, dans ces quatre fantastiques, le seul couple véritable qu'on voit. Parce que je veux dire, t'as Monsieur Fantastique et Madame Fantastique, qui ont curieusement le même nom. T'as cette histoire où eux, ils sont mariés. À côté de ça, il y a le frangin, donc la torche humaine, et leur ami, la chose. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez bizarre, parce que quand tu vois que ce soit Batman, que ce soit Spider-Man, bon, eux, ils ont leur histoire d'amour respectif, qui ont tendance à plutôt à se finir mal au niveau des films, plutôt que dans les comics aussi, hein, il me semble un peu. Que ce soit Iron Man, qui lui aussi n'a pas vraiment de partenaires ou plusieurs. Après, qu'est-ce qu'on a comme autre super-héros ? On a Captain America, qui lui, n'avait pas spécialement...
Le héros patriotique.
Voilà, tout à fait, oui, qui a été le héros
patriotique. C'est le premier, hein, de chez Marvel.
Et c'est le premier.
Ils l'ont créé bien avant l'entrée en guerre des États-Unis. C'était déjà l'ennemi à l'époque, ouais, hein, les nazis.
Ça. Voilà, tout à fait, oui.
Bah, par hasard.
À partir de 33. Hein. Donc voilà, après il y a Hulk. Bon, après il y a eu Miss Hulk, mais bon, comme il y a eu aussi...
Tu sais que Hulk a été créé à la suite d'un accident nucléaire. Hein,
oui, oui.
D'affaires réelles. Hein.
Oui, oui. Mm. Voilà, on s'éparpille, mais... Et puis il y a même aussi au niveau de Green Lantern qui lui n'a pas non plus d'épouse.
Alors, c'est DC Comics, c'est un peu bizarre.
Oui, non,
c'est
mais.
C'est bizarre, pardon. Oui, non,
mais... ouais, non, mais je dirais, moi, c'est parce que.
Ça a été un peu un flop, on va dire.
Le film ?
Oui, Green Lantern.
Oui, mais ça, c'est toujours pareil. Parce que je veux dire, quand tu lances des personnages, que ce soit Hulk, que ce soit. Comment ça s'appelle ? Green Lantern ou Thor. C'est-à-dire que c'est des personnages, c'est difficile parce que, je veux dire, que ce soit les X-Men, bon, eux, ils sont un groupe, il y a une histoire derrière, il y a le personnage, le rapport ambivalent entre Magneto, entre le professeur X, voilà, ça fait tout un univers. Iron Man, bon, on a créé un véritable personnage, puisqu'on va bientôt avoir même un Iron Man 3, ce que je vois, là, qui va sortir en 2013. T'as aussi ce personnage de Spider-Man, le personnage de nouveau de Batman et de Superman. Bon, maintenant, Superman, je crois qu'il est un peu passé aux oubliettes.
Mais Spider-Man sort aussi, là.
Oui, tout à fait.
Je crois que c'est juillet 2012.
Là. Voilà, c'est ça. Disons que ces personnages uniques, c'est difficile. Moi, j'ai l'impression qu'on prend un personnage d'un truc de Marvel et qu'on fait une histoire autour, mais sans vraiment, véritablement prendre le personnage en lui-même intrinsèquement. Quoi.
Bah si, parce que Wolverine, là, ils vont en faire un deuxième, et ils ont dit qu'ils suivaient scrupuleusement la BD. Hein.
Oui, non, mais ça au niveau de Wolverine, puisque ça, d'accord, mais je veux dire que ce soit Thor, bon, après que ce soit Kenneth Branagh qui a voulu faire un thème un peu shakespearien et tout, le rapport au
Thor,
père.
Je le trouve assez loupé, le Thor.
Oui, non, mais voilà, c'est ça.
T'enlèves les effets spéciaux, il n'y a rien. Quoi.
Mais voilà, mais c'est pareil pour Green Lantern, je veux dire, c'est ce personnage. Bon, après, lui, c'est un peu le côté, l'histoire, comment il arrive à devenir Green Lantern. Mais je ne sais pas, il y a un truc, ça ne marche pas, quoi.
C'est des films qui coûtent cher. Hein.
Oui, c'est ça.
J'ai quelques chiffres. Alors, regarde, la trilogie Spider-Man a coûté entre 139 et 250 millions de dollars. L'incroyable Hulk, 138 millions. Les X-Men, origine Wolverine, là, 150. Iron Man, 186. Le deuxième, 170. Alors que tu trouves des films à des petits budgets comme Sin City à 40 millions, Predator, tu vois, tout ça.
Ouais,
donc après, je pense qu'ils sont obligés aussi commercialement parlant que ça marche. Hein. Tu regardes aux États-Unis le box-office, on ne parle pas comme chez nous en France, en entrée de spectateurs, on parle en millions de dollars. Donc ça veut tout dire.
Bah, alors ça voudrait dire que finalement, on va prendre un personnage quelconque dans l'univers DC Comics, dans l'univers Marvel, et qu'on va en faire un personnage pourvu qu'il y ait des effets spéciaux, une histoire d'amour parce que c'est inévitable, des scènes d'action et des scènes parce qu'il faut toujours un comique dedans. Quoi.
Oui, mais je pense que chez Marvel, il y a quand même un plan de bataille qui est plus rigoureux que chez DC Comics. Ouais. Qui entre nous, c'est aussi, ça appartient à la Warner Bros. Hein. Que bon. Si tu regardes bien au niveau des sorties de DC Comics, là, ils savent pas trop où ils en sont. Que chez Marvel, on sait qu'en 2012, là, donc là, il y a eu les Avengers qui sortent. Mm-hmm. Après, en 2013, il y en a d'autres. Et ainsi de suite, je suis en 2014-2015. Donc, tu vois, déjà, ils savent très bien où ils vont.
Oui, mais tout à fait. Moi, je ne veux pas en venir toujours à ce fameux Batman, Dark Knight et tout. Moi, j'ai vraiment été séduit par la performance du Joker. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça reste vraiment une référence. Moi, j'ai l'impression qu'on a tendance à mieux brosser ses personnages, que ce soit Batman, bon, avec tout ce beginning et tout. Mmh. Et puis après, il y a aussi Iron Man, puisqu'effectivement, ils reprennent vraiment l'histoire.
Le choix du réalisateur est important, je pense.
Oui, non, mais ça aussi. Dans Iron Man, on voit tout vraiment ce passage-là, puisque dans le comics, on le voit qu'il devient alcoolique et que c'est son copain qui va reprendre le flambeau de Iron Man pendant un moment. Quoi.
Oui, ça, on le voit bien dans le 2.
Ouais, dans le 2, on le voit tout à fait. Donc voilà. Superman débarque sur cette planète, arrive à avoir des super pouvoirs. Enfin, moi, je le trouve trop mou, quoi. Je veux dire, par rapport à certains personnages.
Tu parles des Superman, les ceux des 78-80.
Voilà, c'est ça, les Christopher. Les Christopher. Oui, non, mais...
Tu regardes par rapport à maintenant, c'est sûr que c'est.
Mais voilà, oui, mais justement.
C'est désuet, quoi.
Oui, mais voilà, parce que je veux dire. Quand
tu veux dire qu'ils ont, ils ont pas assez axé sur la psychologie du personnage.
Enfin, après, je sais pas, parce que c'est peut-être vis-à-vis de comme ça s'appelle, de Superman. Mm. Je veux dire, quand t'as un personnage comme ça qui est quasiment un dieu, parce que je veux dire, il peut voler, rien ne l'atteint, il envoie des lasers avec ses yeux, je veux dire, il est super rapide, il peut quasiment tout faire. Et il se quand même, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il reste que dans une seule ville, le type. Hein. Il est à Metropolis. Bon, son pire adversaire, c'est Lex Luthor.
Ah ouais.
Et c'est tout. Il ne sort pas de là, quoi. Bon, après, c'est vrai que c'est les années 80, si je me rappelle bien, des sorties des films.
Ouais, ouais.
Et donc, voilà, c'est encore, on est dans une opposition bien, mal. Enfin, c'est la grosse dichotomie du bien et du mal.
Ouais.
C'est-à-dire que, voilà, c'est clair. Lex Luthor, méchant. Superman, gentil. Donc, voilà, c'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça.
C'est la mode de nos jours, là, de torturer l'esprit du héros. Mais
quand Tim Burton sort son Batman, je veux dire, c'est un esprit torturé. On sait plus vraiment qui est le gentil, qui est le méchant. Enfin, si, on sait qui est le méchant, qui est le gentil, mais c'est plus si limpide que ça. Je veux dire, on se retrouve avec des personnages. D'ailleurs, c'est aussi toute la saga des X-Men.
Ben tout, Wolverine. Hein.
Que ce soit tout le combat de Magneto. Parce que le combat de Magneto, c'est que justement...
C'est différent, c'est des mutants déjà.
Oui, mais c'est-à-dire que ça a été un gros tournant, je pense, dans les comics. C'est qu'à un moment, tu as ce côté... où les mutants sont obligés de se positionner vis-à-vis de l'humanité. C'est-à-dire qu'avant, c'était des défenseurs, il y avait les méchants, il y avait les gentils. Magneto, prenant ses références sur l'Holocauste, a dit que, évidemment, l'humanité voulait détruire ceux qui lui faisaient peur, donc les mutants, et que lui voulait détruire carrément l'humanité pour que les mutants prennent le pouvoir. Quoi.
Je crois qu'à la fin d'ailleurs des Marvel, toute l'humanité y est passée, il me semble.
Moi après, j'ai arrêté la lecture des comics, donc je pourrais pas dire où c'en est. Mais moi je me rappelle, quand je les lisais, c'était l'époque de l'apparition des Sentinelles, donc ces immenses robots qui étaient partis pour détruire tous les mutants, et que grâce à ce personnage qui venait d'un univers parallèle, qui était le Phénix, qu'on voit dans le X-Men 3, et bon, pour faire rapide, ce phénix-là, c'est la fille de Cyclope.
C'est le problème, moi, je trouve. C'est qu'on s'y perd. Hein. Un peu réservé aux initiés, quand même. Il faut suivre au bout d'un
moment. Oui, mais ça, tout à fait. Parce que je veux dire, quand tu suis tout le cheminement des années 40 et tout, en plus, je veux dire, les personnages changent un petit peu, quoi. Il y a ce personnage de phénix qui apparaît et qui veut pas que, justement, les mutants disparaissent. Et on en est à une prise de conscience de population des mutants à se dire où je me trouve. Est-ce que je me trouve défendre des êtres humains qui veulent ma mort, ou est-ce que au contraire, je veux les détruire pour pouvoir les diriger, quoi.
Moi, je pense qu'à la fin même ils s'en foutaient, quoi, des êtres humains. Ils sont au milieu, tant pis pour eux.
Hein. Mmh. Oui.
C'était leur guéguerre entre eux après.
Bah, disons que oui, non, mais ça c'est vraiment le rapport des années 80. Je veux dire, ou voire même l'époque quand c'est pas Spider-Man ou même Batman, c'est-à-dire. Que c'est de la guéguerre entre le méchant et le gentil, et puis les êtres humains se trouvent au milieu. Moi, je dis la réflexion qu'amènent les X-Men, c'est-à-dire quelle est la place du mutant dans la société. Mmh. Et vous remarquerez, petit détail en passant, que les super-héros sont quasiment tous américains. Hein. Bon, Thor, il a beau être...
C'est normal, c'est créé aux États-Unis, Gwen.
Mais oui, mais d'accord. Mais
c'est très bien que les ovnis n'atterrissent qu'aux États-Unis.
Voilà, et dans des grandes villes aussi, d'ailleurs. Ça, il faudrait m'expliquer si quelqu'un est vraiment un aficionados des comics, des Marvel. C'est pourquoi ça se passe toujours à New York, parce que Spider-Man, quasiment, c'est à New York. Les 4 Fantastiques, c'est à New York. Hulk,
c'est le siège de ces comics, voilà, Marvel, c'est à New York.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça se passe toujours. Après, il y a deux personnages qui sont très curieux dans cet univers-là. C'est Superman et Batman. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leur ville à eux.
Ouais, ouais.
Que ce soit Gotham City... pour Batman et Metropolis pour Superman. Donc c'est les seuls. Après les autres, ils sont vraiment.
C'était les premiers aussi.
Voilà, c'est ça. Et puis on pourrait pour en revenir aux X-Men, c'est-à-dire que eux, ils rayonnent sur tout le pays. Enfin, oui. Ils sont pas liés à une seule ville, quoi. Et ce qui est très marrant, puisque je veux dire, quand tu regardes les personnages, parce que le personnage de Roro, donc Tornade, vient d'Afrique, le personnage de Colossus, donc celui qui est en métal, vient de Russie, il me semble que Kitty, là, celle qui passe à travers les matières, elle, il me semble qu'elle soit anglaise, parce qu'il me semble qu'après elle fait partie d'une équipe en Angleterre, après ça, les fans me le diront, quoi. On va un peu en rester là pour l'instant. Pourquoi les héros sont exclusivement masculins?
Non.
Ah bah
non,
si,
non,
quand
non,
même.
Je suis pas d'accord. Moi.
Bah, regarde, attends, attends,
au
attends.
Début, au début des Marvel, tout de suite, il a créé des comics pour les femmes.
T'as eu toute l'époque des Superman. Ensuite, t'as eu les Batman. Ensuite, t'as eu les Iron Man, qui sont quand même trois films. T'as eu bon après.
Ah, toi,
t'as...
tu parles dans les films ou dans
oui,
les comics?
Oui, non. Bah oui, parce que je veux dire, on est à arrêtons cinéma. Donc voilà, moi je parle de choses.
Oui, tout à fait.
Bah non, regarde, il y a Poison Ivy, c'est une femme.
Oui, non, mais bon, le personnage
principal. C'est un choix, après, je pense, c'est un choix de Disney Marvel ou de la Warner de choisir ses héros en fonction de. Tu dois sortir prochainement la Panthère Noire et un film sur la Veuve Noire.
C'est, moi, ce que je trouve ça très marrant, c'est qu'ils ont essayé un Supergirl qui est complètement loupé.
Ouais, ouais.
Catwoman, loupé. Mmh. Elektra, il me semble pas qu'elle soit rentrée dans les 30 ou au meilleur des classements de films.
Mais t'as les 4 fantastiques, personnages
oui,
féminins.
Oui, non, mais d'accord, Miss Fantastique.
Tu veux dire toute seule.
Oui, mais voilà, c'est
en
ça.
Héroïne, toute seule. Ouais.
Voilà. À un moment, on pourrait faire son Miss Hulk. Ils ont fait une tentative de Bad Girl.
Ouais.
Et c'est complètement loupé. Bon, bon, le film, il était naze.
On va dire qu'il t'a pas plu.
Oui. Disons que. Et là, je pense que c'est un peu les dommages collatéraux du cinéma américain. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ils voient que ça marche au niveau des franchises, bah, ils essaient un épisode de plus et là
je crois qu'il y a réellement un plan quoi. C'est un plan de la part des Majors quoi.
Non mais que ce soit un plan dans Major dans le style des Avengers, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un exercice commercial pour réunir tous les personnages des Avengers. Je veux dire, on a toujours fait des petites références.
Ouais, oui.
Qu'on voit le fameux marteau de Thor Mjolnir dans le Iron Man 2. Qu'on fait des références avec Captain America, puisqu'il y a le père de Tony Stark, Iron Man, qui est son meilleur ami. L'apparition de la Shield de Nick Fury, qui va tenir aussi la dragée haute dans Hulk. Et dans Thor, puisque c'est
oui.
Ils apparaissent quoi. Donc voilà quoi, et que c'est eux qui vont faire apparaître le fameux personnage de l'archer qu'on voit quelques secondes dans Thor et qu'on voit.
Oui, on le voit dans les Avengers. Ouais.
Et qu'on voit aussi le personnage de la Veuve Noire dans le Iron Man 2. Là, c'était vraiment un exercice.
Oui, c'est tout est ciblé après. Ouais.
Tout est ciblé pour faire sortir ce personnage. Et puis dans les Avengers, donc on a donc Hulk, Bruce Banner. On a Iron Man, donc Tony Stark. Mmh. On a Thor. On a
la Veuve Noire.
L'Archer. Et
Captain America.
Et Captain America. Donc voilà. Qui vont donc défendre la planète contre un adversaire super puissant qui n'est autre que
Loki.
Voilà, Loki, le frère de Thor.
Méchant, qu'on a... lui. Mmh. Donc pour revenir à ta question, là, mais tes héros sont toujours entourés de Ben Nana quand même. Tu vois, tu dis qu'il n'y a pas assez de personnages féminins. Après, tu as l'impression que des fois, c'est la nana, on va dire, humaine, entre guillemets, mm-hmm. qui justement est le moteur du héros. Quoi. Quand il ne va pas bien, qu'il est troublé psychologiquement, c'est toujours la femme qui vient lui dire, le soutenir, etc.
Vous m'excuserez de faire un peu
de
psychologie de bas étage. Mais je veux dire, j'ai l'impression que ce soit dans le Superman, que ce soit dans le Batman, que ce soit dans le Spider-Man, c'est-à-dire que tu as le héros, l'archétype du mal, qui est là pour protéger sa famille, donc l'humanité,
oui.
Contre un méchant, et que la femme, c'est la récompense du guerrier, quoi. Parce que Lois Lane, elle n'a pas de pouvoir. Mary Jane, dans Spider-Man, ou même la copine de Batman, je veux dire, ce sont des personnages, entre guillemets, secondaires. C'est-à-dire que lui, il va passer son temps à la défendre. Elle va servir d'otage à un moment inévitable de l'histoire.
Oui, c'est
le méchant,
scénario classique, ça.
C'est le scénario super classique. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi il n'existe pas de personnages... Alors, ça a été un peu dans le X-Men 3, puisque le personnage de Phoenix devient très important. Mais je veux dire, elle est quasiment accessoire. Hein. Je veux dire, il n'y a pas une histoire autour d'elle. C'est surtout le rapport, le conflit entre Magneto et le professeur X, hein, qui se servent de Phoenix pour la contrôler.
Oui. C'est, ça n'a rien à voir avec ce, le, soit féminin ou masculin. C'est comme ça. Hein. Ils ont calculé, ils vont prendre tel héros qui rapportera, et puis voilà.
Bon, après, je vais repartir dans ma psychologie de bas étage, hein, excusez-moi, chers auditeurs, mais voilà.
Et auditrices,
c'est vrai, merci Hugo.
C'est toi qui parles des hommes et des femmes en héros, bravo.
Les Marvel, pour moi, c'est la nouvelle mythologie. C'est-à-dire qu'on a eu, dans les temps antiques, on a eu Hercule, on a eu Thésée, on a eu Persée. Là, curieusement, là aussi des hommes. D'ailleurs, le personnage de Hercule pourrait aussi faire apparaître dans un Marvel, puisqu'il faisait aussi partie des, il me semble, des Vengeurs à une époque. Hein. Quelque part, moi, je trouve que les super-héros, c'est-à-dire que c'est plus des enfants de Dieu, enfin de Dieu avec un X, hein. C'est plus les enfants de Dieu, de l'Olympe ou d'Asgard, bon, sauf dans le cas de Thor, mais bon là c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on leur octroie un pouvoir, ou même ils se le créent eux-mêmes, puisque finalement Iron Man ou que ce soit Batman, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas vraiment un pouvoir intrinsèque, mais ils se sont créés une armure, ils se sont créés des gadgets qui leur permettent de combattre le crime, et c'est les nouveaux chevaliers des temps modernes.
Ouais, mais c'est normal, Gwen.
Comment ça, c'est normal?
T'es en 2012, il faut que... Il y a un moment que t'as pas vu un film de cap et d'épée, ou etc., quoi.
Non, mais ça, c'est...
Pas sûr que ce soit aussi vendeur qu'un film comme Iron Man.
Bah, non, mais oui, d'accord. Donc, toi, tu voudrais dire, quelque part, qu'on a besoin de ces personnages, parce que, je veux dire...
C'est patriotique, c'est comme Captain America à l'époque, il regarde...
Oui,
tu le vois dans le film, il faisait les tournées pour mobiliser les troupes. Quoi.
Mais...
Je pense que c'était assez politique quand même. Hein.
Tu veux dire ?
Les créations des personnages.
C'est-à-dire ?
Bah, regarde, là, parce qu'à l'époque, les héros, ils avaient une psychologie complexe, ils exploitaient les peurs, des questionnements d'ados et de jeunes adultes de l'époque. Ils ont calculé leurs héros en fonction de ce qu'il y avait au niveau politique de l'époque et ce qui se vendait, ce qui se vendait pas. Hein.
C'est-à-dire, c'est aussi la création du personnage. Je veux dire que Stan Lee ou tous les créateurs de personnages, à un moment, ils ont ce problème à se demander qu'est-ce qui fait que leur personnage décide à un moment de leur existence, bon, plus dans le cadre de Batman ou de comme ça s'appelle Iron Man, puisque ça leur est, enfin je veux dire, ils ont pris leur destin en main. Je veux dire que Superman, lui, il a atterri sur la planète, c'est pas tellement lui qui a décidé.
Mais encore faut-il qu'il s'adapte.
Voilà, mais
regarde, Magneto, il veut pas s'adapter, tu le vois dans le film d'ailleurs.
Oui, non, mais je veux dire, lui, tout à fait. Oui, non, mais c'est d'accord, mais ça veut dire que lui, c'est son passé qui va, parce que
il se pose quand même des questions existentielles, hein.
Tout à fait.
Pourquoi les humains ils nous aiment pas?
Voilà, c'est ça. Mais en
comment accepter le regard des mutants par rapport à d'autres?
Oui, mais tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'il y a ce côté du passé qui trouble beaucoup les personnages.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est le cas de Magneto, c'est le cas de Batman, puisque Batman, finalement, lui, il va toujours avoir en tête la mort de ses parents et qu'il n'a rien pu y faire. Que Spider-Man,
le problème, c'est qu'il a personne avec qui parler, Superman.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est très marrant, puisque le personnage de Spider-Man est un personnage qui se parle. Là, j'ai fait quelques recherches et on a surtout ce truc où Spider-Man est un personnage qui a tendance à être un peu moqueur et à se parler tout seul, quoi. Donc voilà, lui, c'est carrément créé un double. Et ce qui est très marrant, puisque finalement, son pire adversaire...
C'est lui-même.
C'est lui-même, c'est Venom. Donc voilà, c'est très curieux. D'ailleurs, qui a été très mal fait dans le film, hein, parce que...
Je crois qu'il doit faire prochainement, en 2014, quelque chose comme ça, un film sur lui uniquement. Quoi.
Ouais, mais parce que moi, je trouvais que c'est quand même très curieux de se dire, parce que c'est là aussi l'avantage, je pense aussi, et peut-être plus que des films de KPDP, c'est-à-dire qu'on est dans un univers où tout est possible. Je veux dire que tu peux quasiment devenir un géant vert...
oui.
Voilà, tout à fait. Tu peux tout détruire.
Crédible, il faut rester dans l'univers Marvel.
Oui, non, mais ça.
Désolé. Bien.
Non, mais ça, d'accord. Non, mais je veux dire.
Tu peux pas tout te permettre non plus, parce qu'il y a déjà des BD qui sont là et qui s'appuient quand même sur les BD.
Non, mais obligés. Ce que je veux pas dire, c'est pas que tu peux pas faire rien avec le personnage. C'est-à-dire que le personnage en lui-même est capable de tout. Je veux dire que ce soit. Ils peuvent bondir sur des immeubles, balarguer des tanks. Je veux dire, ils sont capables de se prendre 14 coups de poing dans la tronche et
c'est
rien
des
à voir.
Super-héros.
Oui, mais voilà. Non, mais c'est-à-dire que c'est ça que je pense que les spectateurs cherchent. C'est ce personnage qui est capable de tout faire, de survivre et d'avoir en même temps des questions existentielles comme tout à chacun.
Il faut meubler, tu peux pas faire 2 heures d'explosion et
mais bien sûr, encore que ça dépend. Mais non, ça dépend, parce que certains films américains, ça a tendance à quand même bien bâtonner.
Ils ont toujours été les gendarmes du monde. Donc,
Oui, mais voilà. Non, mais je veux dire, parce qu'il y a le personnage, bon, là, il a été un peu moins exploité, mais comme ça s'appelle, le surfeur d'argent, qui est un personnage dans les comics. Je veux dire, lui,
il fait partie des bons pourtant, lui.
Oui, non, mais c'est. Enfin, oui. Mais,
c'est un super-héros.
C'est un super-héros. Mais en fait, c'est un truc super philosophique quand tu lis Le Surfeur d'Argent. Tu m'excuse. Alors, par contre, là, dans les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, moi, je trouve que le personnage de Galactus, il a été très mal fait.
Tu vois, c'est ça le problème. On est d'accord. Il y a trop de personnages. Au bout d'un moment, il y en a obligé qu'il y en ait qui sont bâclés. Hein. Si tu voulais faire un film pour chaque héros, je te dis, t'en aurais pas loin de 5000 films à faire. Quoi.
Oui, mais tous les studios valent leurs héros. Je veux dire que t'as eu les Harry Potter, t'as eu les James Bond, t'as eu les Seigneurs des Anneaux. À un moment, ce qu'ils veulent chercher, c'est le héros qui va marcher. Celui qui a sorti dans les années 80 Superman, il a bien marché. Celui qui a sorti Spider-Man, il a très bien marché. Celui qui a sorti Batman dans la première génération ensuite la seconde génération de Nolan a très bien marché aussi. Ce qu'ils veulent, c'est essayer. Alors Hulk, il a fait 2 films. Thor, il va
faire 2 films.
Oui, mais voilà, c'est ça.
T'as le super-héros, et puis y a Love, le méchant qu'il faut. Puis
voilà, t'as les personnages qui ont loupé, comme Daredevil, comme Elektra, comme Catwoman.
Il n'est pas loupé, fait par Michelle Pfeiffer, il n'est pas loupé, le personnage de Catwoman.
Oui, non, mais ça, c'est Tim Burton. Moi, je te parlais du film de Alberi, quoi.
Proprement.
Mais après, t'as les personnages un peu plus inconnus, comme Ghost Rider, qui est aussi un héros de comics. Hein. J'ai vu le premier, là, il va sortir un second. Moi, j'ai pas trouvé ça super fantastique. Je veux dire, ça m'a pas remué les tripes.
Le deuxième est pas bien, enfin, pas exceptionnel non
plus. Voilà, voilà. Et puis, il y a le personnage aussi de Jonah Hex.
Si, c'est pas mal. T'avais pour Vendetta aussi. Hein. Après, t'as les Blade aussi. Toutes des adaptations de chez DC Comics. T'as Judge Dredd. Hein. T'as Constantine aussi. T'as la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Bon.
Alors voilà, justement, que je en voulais en venir, c'est justement à Alan Moore, donc la Ligue, qui a fait aussi les Watchmen.
Oui, c'est bien ça.
Et élevé comme Vendetta. Je trouve que le film des Watchmen, il est extraordinaire, quoi. Moi, j'ai adoré, tant musical. Come gather around people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. That violence and oppression is not the way to peace. Reaction here. Come, senators,
Congressman, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing.
Au niveau des films, parce que je connaissais pas la BD. Hein. Franchement, je l'avais jamais lu. Le réalisateur, il a vraiment suivi. Et pourtant, Alan Moore a pas été content du résultat. Mais ils ont vachement suivi. Alors, ils ont coupé quelques personnages parce que sinon, c'était super long, quoi.
Non, mais
il était pas le même fait. Parce que dans la Ligue des Gentlemen, moi, je l'ai lu la bande dessinée après. C'est super gore. Ça finit, mais très mal. Quantorman, c'est un véritable alcoolique.
C'est très bien une happy end.
Et en fait, la véritable chef, c'est Mina. Donc, voilà, ça élimine. Mais et là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose un peu de nouveau donc, dans tous les héros de Alan Moore, parce que c'est vraiment une critique de la société américaine, vraiment lié à Alan Moore lui-même, hein, parce que je veux dire, c'est un sacré personnage, lui. Il y a vraiment une critique et ça se termine techniquement souvent mal. Après, bon, c'est vrai que l'univers américain a tendance à préférer les happy ends. Ça, on n'y peut rien. Hein.
C'est plus vendeur.
Bah, c'est plus vendeur, mais oui, non, mais moi, ce que je trouve, c'est ça. Parce que quand tu regardes, par exemple, le cinéma japonais, ou même chinois, non mais je veux dire que je veux dire c'est quand même des héros et les types ils meurent quand même à la fin. Si le héros doit mourir, il meurt.
S'il doit se sacrifier, oui.
Bah, il se sacrifiera.
C'est un sacrifice aussi. Hein,
oui, mais tout à fait.
Oui, non, asiatique. Mais,
voilà, c'est ça. Alors que je veux dire, bon après ils ont quand même l'honneur, hein, je veux dire les super héros.
Oui. C'est ça. Pas, c'est pas la même philosophie.
Bah, moi je dirais que ce qui a été le début, comme c'est bon parce qu'on va un peu en revenir, mais comme ça a été Superman, c'est-à-dire que lui il a son code d'honneur. Mais c'est bizarrement pas le même que Batman. Genre, ils vont pas utiliser les mêmes méthodes, quoi.
Ça se verra dans l'Avengers aussi.
Oui, mais voilà aussi.
Les conflits entre Iron Man et Thor, arbitré par Captain America, ce qui est assez drôle, je dirais.
Bah, c'est normal, puisque après tout, Captain America, c'est un personnage clean. Je dirais, il a aucun défaut, il a zéro défaut le type. Je dirais, dans le film, c'est un gringalet là, qui se fait bastonner. Alors, c'est là où j'adore le cinéma américain, c'est quand même un gringalet, il se fait tabasser, mais c'est pas grave. Hein. Je dirais, il va trop lancer, tant pis, je vais m'en prendre plein les mouilles.
Toi, tu serais là, tu aurais deux côtes cassées. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et ben, il va y aller quand même. Quelque part, c'est pour dire, et ben, même si je suis maigrelet, même si je suis faible, même
j'ai
si
pas je... mal, j'ai pas mal.
Bah, c'est pas que j'ai pas mal, mais c'est que j'ai pas peur surtout. Et je veux dire, je vais me lancer parce que moi, j'ai un code moral et j'y tiens. Alors que bizarrement, Batman, il a quand même moins. Hein. On a tout l'univers de Tim Burton, tout l'univers de Christopher Nolan, mais t'as ce qui est dans la bande dessinée. Et je veux dire, j'ai vu quelques comics, il passe vraiment du côté obscur à un moment, hein, Batman.
Oui, oui.
Je veux dire, si ils ont besoin que ce soit sanguinaire, ils le feront.
Mais je crois que c'est un dessinateur, je sais plus le. lequel qui était revenu dans les années 60 ou 70, et c'est lui qui est revenu à ce côté obscur de voilà, Batman, parce que c'était un peu fleur bleue il y a une époque.
Bah, c'est-à-dire il y a eu toute la période qu'on connaît tous de la série Batman, ouais, où voilà, le type était en collant et que c'était rigolo.
Donc,
hein,
toi, mais... tu parles de la série télévisée, là.
Oui, voilà, oui, la série télévisée, oui.
Mais... Si, tout à l'heure, on parlait, j'ai oublié, il y a Wonder Woman aussi.
Oui,
ils
voilà.
Ils n'ont pas fait de film, mais
non, ils ont fait une série, voilà, tout à fait. Ah, et j'ai oublié un personnage.
C'est inadmissible. Oui. Inadmissible.
Le fameux personnage, alors, négatif à souhait.
Toi ?
C'est... Non, c'est pas moi. Non, non, je ne suis pas un super-héros, je ne suis même pas un héros.
Je ne suis pas un héros !
Et c'est The Punisher. Voilà.
Ah oui.
Et parce que
c'était Travolta, ça, le premier film.
Voilà, c'est ça. C'est un agent et FBI, que toute sa famille s'est fait abattre durant une guerre des gangs, enfin entre deux clans. Il me semble que les trois films reprennent carrément le même scénario, quoi. Hein, que ce soit celui de 1989, de 2004 et de 2008. Et ben voilà, ça c'est un personnage où le mec, on part de principe que c'est vraiment un acte de vengeance. C'est carrément shakespearien, hein. C'est Titus Andronicus, c'est-à-dire qu'on prend ce personnage, on tue toute sa famille, et ensuite, hop, la vengeance directe. Le scénario est, je dirais, un peu simpliste, mais voilà, ça fait...
On retrouve un peu ça aussi dans les films à Steven Seagal, je trouve.
Et de Chuck Norris aussi.
On tombe un peu dans la facilité des fois.
Moi, je vais y revenir une fois de plus. Mais on a tendance à voir vraiment ce personnage, pas candide, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, mais de Superman, à clairement ce côté du Punisher, où voilà, le mec, il faut tuer les autres de la pire façon soit, et clairement avec la torture.
Il est dans la vengeance.
Oui, il est dans la vengeance. Il y a Spawn aussi.
Oui.
Le film de Spawn, là. Qui a fait un demi-succès, quoi. Après, on peut tomber carrément dans des films comme Kick-Ass.
Oui.
Parce que quelque part, c'est aussi...
Ils vont faire un 2, tiens, d'ailleurs, j'ai appris.
Ah ouais, c'est vrai ?
Oui, oui.
Ah bah, nom de Dieu. Ah bah, super. Ah bah, d'accord.
Bon, sois gentil, s'il te plaît.
Non,
t'as
mais...
dit que tu serais gentil aujourd'hui.
Non, mais je veux dire, à un moment, il faut être logique. Je veux dire, ok, ça a marché, Kick-Ass et tout, mais je veux dire, bon, c'est le côté anti-super-héros. Parce que forcément, c'est un mec qui a aucun pouvoir, il se lance tout seul, il se fait casser la gueule, puis là, alors, d'un coup, bizarrement, par un effet de style et de scénario, il se retrouve aidé d'un type... et de sa fille, qui sont des tueurs pros, mais alors, comme on n'en a jamais connu. Et d'un coup, hop, voilà, il devient super important. Et que voilà, donc à un moment, faut arrêter, quoi.
Ils vont en sortir aussi un Avenger 2, hein, qui est prévu.
Ah ouais ?
Ouais. Il y a un Luke Cage, il fait partie des Marvel, hein, tout ça c'est Marvel. Il y a un X-Men First Class 2 aussi qui est prévu.
Oui,
ils ont prévu un Captain America 2 en mai 2014. Hein.
Ah, ils n'arrêtent pas. Hein.
Il y a aussi, tu sais, un Amazing Spider-Man 2 en mai 2014. C'est celui qui doit sortir là.
Oui, mais
en
voilà. Alors, on va faire un récapitulatif historique. Oui, tout à fait, monsieur, tout à fait, j'ai le droit. Dans les années 80, toutes ces histoires de Superman, voire même de Supergirl en 84. Et dans les années 90, qu'on a les Batman, donc les Batman,
oui. Judge Dredd,
voilà, c'est ça. Et ensuite, à partir de 2000, là effectivement, on est vraiment dans la lancée. Ensuite, je pense, il me semble que c'est le premier, ça a été le Spider-Man de Sam Raimi en 2002 qui a été le début, puisqu'après on a Blade 2, X-Men 2, Daredevil, Spider-Man 2, Hulk, Blade Trinity, The Punisher, les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, Elektra,
2005,
voilà,
oui.
C'est ça, les X-Men, l'affrontement final, Spider-Man 3, Ghost Rider, Iron Man, l'incroyable Hulk, le Punisher Warzone et les X-Men Origins, Wolverine.
Attention, on était en 2010 déjà.
Voilà, ouais. Oui, tout à fait.
Iron Man 2.
Voilà, c'est ça. Puis, donc, il y a le fameux Dark Knight qui est arrivé en 2011, sans parler des Superman Return en 2006 et des Watchmen en 2009. Et le fameux succès de Catwoman en 2004. Donc, tu vois, à partir des années 2000, vraiment, c'est lancé. Et là, effectivement, on est dans une machine commerciale.
Ah, oui,
c'est-à-dire
oui.
Que là, les 1, les 2, les 3, les 4.
Chez Marvel, il y a un plan de...
Voilà, c'est ça.
C'est planifié.
Après, on va se demander, parce que là, on a les X-Men, on a les 4 Fantastiques. Peut-être qu'il va y avoir un troisième, on sait jamais. Apparemment, l'acteur a signé pour plusieurs films.
Parce qu'après, il y a un Doctor Strange.
Ça voilà, c'est,
il y a
ça,
beaucoup
c'est...
de projets, mais après, ouais, je ne sais pas s'il y aura
bah voilà,
vraiment
ça.
Des naissances. Et le Thor 2, il sort en novembre 2013.
À quand les Français vont-ils avoir leur super-héros ? Super Dupont ? Bon, après, je sais qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers. Peut-être que sait-on jamais que Luc Besson va se lancer.
C'est une bonne question.
Voilà, parce que
à part les astérisques qu'on a mis en...
Oui, enfin, c'est ça.
C'est-à-dire des BD qu'on a mis en film, il n'y en a pas. Il y a Blueberry.
Oui, Blueberry qui a...
Lucky Luke.
dans le
Tintin.
Bah, Tintin, si, parce que c'est sorti. Logiquement, il y a le 2 qui va être prévu. Oui, là, oui, donc, oui. Voilà. Bon, après, c'est Steven Spielberg. Hein, c'est pas un... Moi, je pense que je pensais oui. vraiment à un super-héros ah. français. Quoi. Bon, c'est vrai qu'après, on a
Super-résistant.
Lorsque tout est perdu, surgit Super-résistant. L'homme que la résistance admira et que l'histoire oublia.
Bienvenue à Paris, Général Sponks.
Par exemple, moi j'avais parlé à Super Dupont, mais pourquoi pas Super Résistant, c'est vrai. Bon, non, mais voilà.
On frôle le navet là, attention.
Non, mais c'est très curieux, parce que c'est vrai que l'école comics, comme aux States, et puis l'école, ce qu'on appelle chez nous l'école belge, avec tout le Franquin et tout, Hergé et consorts, donc qui sont considérés comme bande dessinée.
Il y en a plein quand même en France des dessinateurs, qu'est-ce que tu dis là? C'est mais tu parles des plus connus, toi.
Mais non, c'est pas des plus connus. Moi, ce que je pense, c'est surtout pourquoi on n'a pas notre héros. Alors, je vais pas tomber non plus dans un nationalisme facile à la Captain America, mais je veux dire, pourquoi, quelque part, on n'a pas des héros? Qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, on a cette possibilité d'avoir carrément un héros par ville, comme Metropolis, comme Gotham City, comme New York, tout.
Parce qu'on n'a pas la même définition du film, peut-être.
Non, mais je veux dire, c'est d'abord une bande dessinée.
Oui.
Parce que... Alors bon, effectivement, on n'est pas dans le cinéma de science-fiction. C'est vrai, à l'américaine, nous, ça canarde pas partout. On n'a pas...
C'est pas le même budget, déjà.
Pourtant, alors moi, d'accord, ça canarde pas partout. Il n'y a pas d'immeubles qui claquent. Par contre, c'est très curieux. Je veux dire, Paris s'en prend quand même plein la mouille. Hein, parce que dans le G.I. Joe, dès qu'il y a un astéroïde qui tombe, bizarrement, c'est sur Paris. Je veux dire, quand tu regardes le film, par exemple, Phénomène, je veux dire, au début, ça se passe aux États-Unis et à la fin, ça se passe à Paris.
Ouais, on appelle ça des dommages collatéraux. Quoi. On est là pour ça.
Tout à fait. Bon,
attends, j'ai une petite nouvelle pour
toi. Vas-y.
Ils vont nous refaire un reboot de Daredevil aussi.
Ah non, c'est vrai?
Ah oui, c'est le réalisateur, c'est David Slade.
Avec qui? Tu sais qui c'est qui
non,
va jouer?
Non, non. Pour l'instant, je sais pas trop.
Faire un petit passage au pastel. Voilà, alors aujourd'hui on n'aura pas de super-héros et pourtant on aura quand même de la bande dessinée puisqu'on a sur la piste du Merci Pulami d'Alain Chabat.
Je te rappelle. Hé, Matteo! Vous voulez voir quelque chose?
Mardi prochain, Dan Geraldo repart en Palombie. Sa mission, percer le secret des Paya.
Mais attendez, là vous êtes en train de dire que je pars en Palombie, là.
Vous avez rendez-vous avec Pablito Camarón, votre guide.
Et c'est lequel, celui de gauche ou de droite?
Je me dirige vers le redouté territoire des Paya. Mon guide, chétif, mal nourri, probablement illettré.
Je vous entends cette distance.
Vous êtes toujours cette légende-là du Persilami?
Marsupilami, dites-le bien, sinon ça va m'énerver.
Il existe, je l'ai vu!
Les gars, menteur!
Oh, mytho!
Que la prophétie commence!
Dans quoi vous nous avez fourré? On fait quoi pour le Marsupilami?
Attrapez-le!
Je veux des glingos! Mettez-vous en Califourchon!
Non, ça n'a rien à voir. Voilà!
Nom de moi-même, de nom de moi-même!
Enchantée, mademoiselle.
C'est quoi, tu vois, c'est pas ta journée.
Qu'est-ce que tu disais?
Que si, que ça serait ta journée.
Les animaux m'adorent.
Donc avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Fred Testa, Lambert Wilson...
Testo,
excuse-moi.
Patrick Timsit, Mademoiselle Nakache. Oui, alors donc c'est quand Dan Gerardo, qui est joué par Alain Chabat, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie. Ça, par contre, je ne sais pas où c'est. Gwen.
Non, mais ça, c'est un pays inventé, ça.
Ah.
Et oui,
j'ai souvent... passé 2 jours à chercher où c'était.
Oui, mais souvent.
Donc, il...
C'est con parce qu'il me semble que Anaël nous avait parlé de. Ah non, c'est la Colombie. Je l'ai confondu.
Ah, la semaine dernière. En Colombie. Je crois qu'il était en Palombie.
Si,
donc,
si.
Il ne se doute pas qu'il va faire la plus incroyable des découvertes avec Pablito. Donc, c'est joué par Jamel Debbouze, son guide local, plein de ressources. Ils vont aller de surprise en surprise, d'une aventure trépidante et surtout révéler une nouvelle extraordinaire, le marsupilami, animal mythique et facétieux et qu'il existe vraiment.
Alors, est-ce que c'est dans la veine de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ?
D'après les critiques, ça a l'air mieux quand même. Hein.
Ah ouais, carrément.
Ah ouais, ouais.
Ouais, je sais pas.
Il est très bien fait, c'est une bonne comédie familiale et très esthétique. Il a soigné son bébé, on va dire.
Ouais, ouais, non, mais alors moi c'est très curieux parce que moi j'ai carrément les deux versions, ou alors carrément on adore. Par contre, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'au contraire, là c'était un peu le.
Des mauvaises langues, je t'ai dit.
Oui, ça d'accord, des mauvaises langues. Mais et je pense qu'effectivement c'est vraiment un truc pour rire, pour
attention,
les enfants.
Attention, c'est pas les vacances de Ducobu. Hein.
Non, ça c'est sûr. J'espère que c'est supérieur parce que là, les vacances de Ducobu. Non, faut arrêter.
Non, mais c'est les héros français, ouais. Tu peux pas comprendre. Non,
pas
mais moi, je te conseille quand même d'y aller. Quoi.
D'accord, ok. Ensuite, on a le Twixit de.
Ah, ça se prononce comme ça ?
Ben, Twixit.
T'as ouais. du mal, hein ? C'est pas une barre chocolatée.
C'est vrai, Twixit.
Dernier film de Francis Ford Coppola.
Donc,
avec Val Kilmer.
Val Kilmer qui a quand même bien pris du poids, hein, je veux bien le dire. Hein.
Mais il a vieilli.
Ben oui, ben il a mal vieilli. Bon, tu
oh
me diras...
là là, tu fais ton gala, là, hein, il a pris du poids. Non. C'est peut-être pour le film aussi, regarde Matt Damon, il a pris du poids aussi.
Tu nous fais le resume.
Si je retrouve mon papier.
Donc
il y a donc Val Kilmer dans Elle Fanning, Ben Chaplin. Et Bruce Dern.
Voilà.
Alors, donc, un écrivain, Val Kilmer, sur le déclin, arrive dans une petite ville des États-Unis. Encore aux États-Unis ?
En même temps, c'est un film US. Hein.
D'accord. Pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Est-ce que c'est encore La Dame en Noir ? Il se fait entraîner par le shérif du coin dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin. Alors, le soir même, il rencontre, en rêve... L'énigmatique fantôme d'une ado prénommée V ou 5, je ne sais plus trop. V, hein. Il soupçonne un rapport entre V et le meurtre commis en ville, mais il décèle également dans cette histoire un passionnant sujet de roman qui s'offre à lui. Donc voilà, moi je pense que ça a à voir quand même, c'est un bon film, je pense. On m'a dit. C'est quelqu'un qui m'a dit. Donc ça ressemble à une comédie romantique macabre.
D'accord. Le monde dit, c'est d'une beauté fragile, poignante, totalement romantique. Twist est un poème gothique reliant le réalisateur à son passé enfoui. Donc voilà, un peu dans un trip Tim Burton.
Mais tu as que ce mot à la bouche, toi. Non,
mais
il
non.
faut que tu décolles, il n'y a pas que ça dans la vie. Non, moi je pensais que ça ressemblait plus à Dans la brume électrique.
Donc ça, tu dirais, faut aller voir. Moi, je pense que j'irai voir parce que c'est plus vraiment dans ma veine, quoi.
Ouais.
Et ensuite, on a le dernier film, là, qui de Mémoire d'ouvrier,
oui,
qui est un documentaire de Gilles Perret. Donc voilà, qui retrace l'histoire des ouvriers des montagnes et de Savoie, depuis la naissance de l'électrométallurgie jusqu'au déploiement de l'industrie touristique en passant par les grands travaux des Alpes et de la mutation de l'industrie. Dignes et lucides, ils se souviennent de ce qu'ils furent et témoignent de ce qu'ils sont devenus dans la mondialisation. Donc ça, c'est, je veux dire, après le côté rigolo de Marsupilami, le côté un peu plus fantastique, comme ça s'appelle, de Francis Ford, et ben là, on a un documentaire un peu plus actuel.
On revient dans la dure réalité.
Ben voilà, c'est ça. Ben, en même temps, je veux dire, c'est le pastel. Je veux dire, c'est un cinéma d'art et d'essai. Donc, effectivement, on a le côté la rigolade, et puis tu as le côté un peu plus sérieux, documentaire sur le monde. Et que...
Je pense que ça peut être pas mal. Hein. Ben, c'est pas uniquement la Savoie, je crois que ça a été tourné aussi dans l'Ain. Hein.
Ben, moi, je trouve que c'est très bien ce genre de film parce que.
Ils disent que c'est un tableau. Pardon, je te coupe.
Oui,
c'est
non,
la première fois. Ils disent que c'est un tableau saisissant et humain, un ton un peu. Il y en a qui diraient que c'est un peu plat, quoi, que ça manque de rythme. C'est un regard sans complaisance à l'heure où les entreprises délocalisent à tout bout de champ. Début, la fin, après le changement, parce que tu sais, la métallurgie, c'est un peu tout fermé en
voilà,
Savoie, donc il s'est plus après basé sur
le
tourisme et tout ça.
Oui.
Je crois que c'est pas très très bien, quoi.
Ah non, mais
à découvrir pour les ados qui veulent un peu...
Oui, en plus, il me semble qu'il y a un tarif lycéen, tout à fait, voilà, il y a un tarif lycéen comme pour le film de Francis Ford. Donc voilà.
Et il y a un bel hommage aussi à Ambroise Croizard.
Ah, d'accord.
C'est okay. Celui qui nous a amené la sécurité sociale et les retraites. Hein. Ministre communiste de 45 à 47.
Eh ben, c'est très bien. Moi, eh ben, messieurs, dames, voilà. Donc, l'émission se termine.
Oui, en espérant que Canaël revienne de Palombie.
Voilà, c'est ça.
Qu'elle ait enfin trouvé son marsupilami.
Voilà.
D'accord. Donc, la semaine prochaine, ce sera les films américains sur le Vietnam.
Voilà, sur le conflit vietnamien.
Arrivederci.
Hasta la vista, baby.
Ok. Et on recherche toujours Anaël.
Anaël, reviens, reviens.